J'espère que vous avez bien retenu la semaine dernière. À partir d'Habacuc, j'espère que tout le monde a lu Habacuc. Franchement, il y aurait beaucoup de choses encore. J'étais presque tenté de reparler, il y a beaucoup de choses dans Habacuc, mais bon, on va s'en tenir là. Vous vous rappelez le thème qui était abordé, tout le problème de l'intimité avec Dieu, de faire taire un peu nos pensées, puis les actions qui s'agitent dans tout sens. Ces derniers temps, j'ai la joie avec mes frères, avec tous mes frères de l'équipe des anciens, et puis particulièrement en ce moment avec Jean-Luc, on a la préparation au baptême avec Tony, et puis il y a un groupe d'hommes, et puis il y a l'enseignement avec Corneille. Ce qui fait que toutes les semaines, on rencontre plein de frères et sœurs, et c'est réjouissant parce qu'il y a une soif, hein, extraordinaire, puis plein de questions, puis on voit bien à travers les questions aussi les combats, les luttes, hein, parce que le recyclage, il n'est pas complètement terminé, et je rappelle, Luther avait dit « j'ai noyé le vieil homme, mais le bougre, il s'est bien nagé hein ». Alors, on va rester un peu cette semaine on va encore aller puiser dans les textes des prophètes. Je suis bien sous la nouvelle alliance, avec tout ce que nous avons chanté, il n'y a pas de problème, mais les prophètes nous enseignent beaucoup de choses aussi. Des choses parfois difficiles, parce que, on le voit bien, là on va prendre un texte de Jérémie, le cœur de l'homme est prompt à se détourner de son Dieu. Hein? Même quand il y a eu des splendides révélations, etc., il faut toujours être bien, bien vigilant. Parce que le vieil homme pas bien recyclé, il grenouille toujours. Hein? Le titre de mon message, parce que je veux absolument être positif, être encourageant, c'est « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Vous connaissez bien ce verset, mais je ne peux pas ne pas parler de ce qui précède. Ce verset, c'est « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Alors, c'est délicat. Moi, c'est toujours une lutte, hein, parce que, vous savez, j'ai vécu dans cette assemblée, j'ai beaucoup échangé avec qui, avec mes frères, Yves, c'est un éternel optimiste, et moi aussi. Mais de temps en temps, il faut quand même bien dire aussi les choses qui ne sont pas faciles. Alors, nous allons lire quelques textes, le texte de Jérémie 17 déjà, puisque je l'ai annoncé, on va commencer par lui, ça va être mon texte de base, puis nous irons voir Jean 5, 39, et puis un peu Esdras. Jérémie 17, du verset 1 au verset 14. Je rappelle le contexte hein, de ce texte de Jérémie, on est vers la fin du royaume de Juda. Salomon, il y a 350, 370 ans, hein, Salomon, la sagesse, j'en dirai un mot, la paix qui est sur le royaume, c'est merveilleux, 370 ans après, c'est la cata. Entre les deux, l'idolâtrie s'est introduite en masse, Israël est déjà dispersé, hein, le royaume du Nord, et Juda, ça ne va pas tarder. Et finalement, Jérémie a cette charge, Jérémie n'a pas une charge facile d'annoncer que ça va se gâter, quoi. Hein. Voilà ce qu'il déclare en Jérémie 17. « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement, au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Prendrons ensuite dans Jean 5. Jean 5. Les versets 39 à 47. Jean 5, versets 39 à 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu en mon nom, au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Et puis dans Esdras 4, versets 1 à 3, un texte qui parle, Esdras 4, Esdras c'est un peu avant les psaumes, avant Néhémie, hein. Esdras 4, versets 1 à 3, pour nous parler des questions un peu de l'idolâtrie et des mélanges religieux. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est un rappel finalement de la chute. À la chute, il y a eu bien une malédiction, une séparation qui entraîne toute une malédiction qui nous est décrite pour l'homme, la femme, toute la création tout entière d'ailleurs. L'homme, en fait, a cru pouvoir se confier dans sa sagesse alors qu'il était entraîné par sa convoitise. Le résultat est qu'il s'est retrouvé à gérer des situations qui l'ont largement dépassé. Et surtout, nous croyant indépendants, nous nous retrouvons en fait sous l'influence de l'ennemi de nos âmes. La sagesse, c'est la sagesse d'en bas, tout ça. Et la parole nous dit, Jacques nous rappelle en Jacques 3, que cette sagesse d'en bas, elle est terrestre, vous voyez là, terrestre, charnelle, diabolique. À partir de ce moment-là, l'homme va entrer dans une lutte, dans un combat qu'il dépasse. Il s'est détourné de Dieu, ça nous est redit hein, dans Jérémie 17, au verset 5, « Maudit soit l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. » La relation protectrice, aimante, elle est rompue. Et l'homme va entrer dans une solitude et une concurrence avec ses semblables. Il n'est plus dans cette relation avec Dieu et il va se dépatouiller. Cette lutte, finalement, c'est la lutte entre le bien et le mal. Il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette lutte fait rage. La chair, dans laquelle habite la puissance du péché, se déchaîne et l'homme ne peut vaincre cela par lui-même. Alors ça va donner deux choses. Soit l'homme va vivre dans une culpabilité, je veux dire, explicite. On va parler un peu d'introverti, hein, une culpabilité névrosante. Soit, pour chasser cette culpabilité, il va s'enivrer, il va tenter d'oublier, s'étourdir de différentes manières, plus ou moins présentables. Ça peut être l'activisme, ça peut être le travail, ça peut être les loisirs. Mais le fond, la racine, c'est qu'il y a ce combat intérieur insoluble. Insoluble parce que l'amour, on va reparler de la rivière, l'amour qui venait du Père, qui venait de Dieu, n'est plus là. Alors vous allez me dire, mais là, tu décris un homme qui n'a pas rencontré le Dieu créateur. Oui, un homme qui a été séparé. Hein ? Qu'en est-il de l'homme croyant ? Je rappelle que le passage de Jérémie parle au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Celui dont Romain va nous dire qu'il a reçu les promesses, la parole de Dieu, qui a entendu les prophètes l'avertir, qui a vu le bras puissant, qui a vu les miracles, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph en Égypte, qui a vu tout ça. C'est le peuple de Dieu. Jérémie 17 s'adresse au peuple de Dieu. Nous pouvons tout à fait le transposer à nous. Il s'adresse à des croyants dans le Dieu vivant, dans le Dieu unique. Et pourtant, Jérémie dit au stade où ils en sont, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. C'est sévère. Comment peut-on en arriver là ? Comment le peuple de Dieu, qui a connu tout ce... comment en est-il arrivé là? Et je crois que c'est cela que je vais partager avec vous ce matin. Ça peut nous enseigner. Vous allez me dire, non, nous on n'est pas de problème. Église évangélique, on est avec l'évangile, on a la Bible, etc. Eh bien, ils avaient tout ça. Pas le Nouveau Testament, encore que, il dit que Ésaïe c'est quasiment le cinquième évangile. Et c'est bien vrai. Comment se fait-il? Ben, la réponse va peut-être vous paraître pas grandiose. C'est arrivé tout simplement petit à petit. Petit à petit. Je fais un rappel. Nous allons relire encore un passage. Salomon. Je repars de Salomon. Je ne refais pas tout l'Ancien Testament, mais je repars de Salomon. Salomon, le moment de la paix. Salomon, c'est vraiment... un témoignage, un signe de la maturité spirituelle, Salomon. Il règne sur tout Israël. L'Esprit de Dieu règne dans Salomon avec puissance. On va lire le passage, il n'y a pas un homme qui a reçu une telle sagesse. Donc c'est vraiment le signe du chrétien mature. Hein ? Rappelle toujours le parallèle de l'Ancien Testament, ce que Dieu fait sur le royaume géographique, historique d'Israël, et de Juda, son royaume, sa terre, c'est une image de ce qu'il fait en nous. Et Salomon est une image du chrétien mature, qui non seulement a fait la paix avec Dieu, mais a la paix de Dieu en lui. Il est mature, il a puissance, les œuvres sont belles, les fruits sont bons. C'est ça, Salomon. Alors nous allons lire dans 1 Roi 4, versets 29 à 34, nous allons voir Salomon au fait de sa gloire. 1 Roi 4, versets 29 à 34. 1 roi 4, versets 29 à 34, « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Akrites, plus qu'Enan, qu'Alcol et Darda, les fils de Malcol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. » Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. C'est la maturité, d'autres passages nous dit la paix régnait sur tout Israël. Hein, vous savez, David a été un homme de guerre, David a conquis Jérusalem, et il passe le relais à Salomon, et la paix, c'est la paix. C'est la maturité spirituelle. Comment, de cette maturité spirituelle, on arrive 350 ans après à la déportation? Eh bien, parce que Salomon, l'image de l'homme spirituel, va détourner son cœur de l'Éternel pour aller vers Astarté dans 1 roi 11, 6 chapitres après. Je ne vais pas lire tout le chapitre 11, mais il nous décrit ces choses-là. Il nous est dit dès le verset 1, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Essiennes. » C'est-à-dire qu'il a aimé, il a été renoué avec des choses du vieil homme qui avaient été recyclées. C'est les tribus qui occupaient la Palestine, qui ont été vaincues. Mais il y a eu des restes. Hein, je ne reviens pas sur la conquête de Canaan. Il y a des tribus qui ont été exterminées, puis il y en a d'autres qui sont un peu restées. On a fait des compromis. Et ça ressort toujours un jour ou l'autre. Ça peut être traité, mais s'il y a eu des compromis, il faudra les traiter. Ça ne va pas disparaître comme ça. Si le travail n'a pas été fini, le Seigneur nous fait grâce, il nous remonte les choses. Et là, ce coup-ci, il faut les remettre à jour. Ce qu'il n'a pas fait. Donc, il s'est fait avoir. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Mais je peux vous dire que ce n'était pas le Philéo. Entraîné par son âme, qui n'a pas été contrôlée, il y avait des choses qui restaient. Et ça va commencer. Tout commence dans le cœur. Un peu de levain, un peu de partage. Un peu de levain fait lever toute la pâte, un peu de partage. Une mouche dans l'huile souille toute l'huile. Ça commence là pour Salomon, la fin de son règne. La conséquence immédiate, dès après sa mort, ça va être la division du royaume. Et puis, chacun à son rythme, Samarie va avoir un peu de l'avance sur l'idolâtrie. Mais Juda va suivre, ça nous est développé dans d'autres prophètes, comme s'il se faisait concurrence dans l'idolâtrie. Le résultat, c'est que de ce cœur qui s'est détourné un petit peu, oh, juste un petit degré, pas grand-chose, mais un petit degré plus un petit degré, au bout de 370 ans, le peuple est en miettes. Cela nous concerne aussi. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Robert, ça c'est l'ancienne alliance. Maintenant, oui, le salut en Jésus-Christ, nous avons chanté des choses merveilleuses et puissantes, et je le crois. Néanmoins, dès les premières communautés, le problème va se poser. Le problème des Corinthiens qui se confient en l'homme. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de machin. Ils se sont laissés séduire par des faux apôtres qui finissent, après avoir séduit par la flatterie, par asservir les brebis. 2 Corinthiens 11, et spécialement 16 et suivants, on pourrait jeter un œil. Paul va être amené, et c'est sûrement pas facile pour lui, il va être amené à défendre son apostolat et dire « pétard ». Qui vous a amené à Christ? Vous vous laissez embobiner. Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je suis venu prêcher. J'ai pas voulu recevoir de vous, non pas par orgueil, mais parce que je ne voulais pas. J'ai senti vos cœurs et d'autres m'ont aidé, mais vous, je n'ai reçu de rien. En vous aimant davantage, vais-je être moins aimé de vous ? Parce que Paul va leur dire, il souffre. Il souffre. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Je reviendrai tout à l'heure sur une mauvaise interprétation de cette phrase. Problème des Galates, c'est le problème un peu symétrique, c'est la dérive religieuse par l'imposition de rites qui n'ont plus aucun sens et sont une insulte à l'œuvre de Christ. Fussent les pratiques du peuple d'Israël avant la croix. Paul va leur dire, mais qui donc vous a fasciné ? Voilà l'homme qui se confie en l'homme, en la chair. La chair est religieuse par nature. La chair est religieuse par nature. L'homme religieux va chercher à obtenir la bénédiction et la protection de Dieu sur la base de son désir, et c'est lui qui décide du protocole. Il est en fait sous l'emprise de puissances de ténèbres qui le trompent. Il y a l'impatience derrière ça. Et l'impatience, c'est la convoitise, finalement. Réfléchissons. Je veux tout de suite. Je veux la puissance de Dieu. Et nous avons Simon le magicien. Il y a une puissance, mais elle n'est pas là pour que je la capte. Elle n'est pas là pour que je la stocke et que je l'utilise à ma guise. C'est vraiment l'impatience qui est en fait l'incrédulité. Habacuc nous rappelle, si la promesse tarde, la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Et là, on voit, là, faut se tenir. Et pas s'agiter. L'idolâtrie, nous avons le veau d'or en Exode 32. Hein. C'est bien l'impatience, je ne relis pas tous les passages, ce serait... On peut aller le lire quand même. Exode 32. C'est bon, Exode 32. Exode 32, vous vous rappelez du contexte, hein? Moïse est sur la montagne, il y a déjà eu les épisodes, Dieu a parlé à tout le peuple de manière audible. Moi, je suis bouleversé par ça. Dieu, l'Éternel, a parlé à 2 millions d'hommes, là, son peuple, de manière audible. Il leur a donné les 10 commandements et puis déjà d'autres instructions. C'est extraordinaire. Le peuple a dit stop. Parle à Moïse, il nous racontera les histoires, tu iras bien. Il y a déjà l'ampleur. Parce que si j'entends Dieu, je suis obligé de changer. Eh oui, c'est une permanence hein, dans toute l'histoire de la Bible. Pierre, il saisit la manifestation de la puissance de Jésus à la pêche miraculeuse, mais ça lui révèle quoi ? Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Donc ce peuple qui a entendu la voix de Dieu, qui vient de sortir d'Égypte, etc., Moïse est sur la montagne, recevoir les instructions de l'Éternel, et pendant ce temps-là, le peuple, voyant que Moïse tardait, voilà le point de vue du peuple, à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et le conducteur, c'est terrible, le conducteur va se laisser entraîner par la démocratie, par la pression du peuple. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or, et ils les apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta-leur dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Invraisemblable. Invraisemblable, et pourtant, ce fut le cas. L'idolâtrie, c'est finalement une convoitise, on veut s'attribuer une puissance, il y a une impatience, incrédulité. Ça conduit à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie qui est un adultère spirituel, hein, c'est comme ça que le Seigneur le parle, pourquoi l'idolâtrie qui est un adultère spirituel va conduire à d'autres adultères et à d'autres impuretés? Parce que mon incrédulité, mon impatience, mon désir de posséder, finalement, l'idolâtrie, c'est se créer un médiateur pour posséder quelque chose de divin, de spirituel. Eh bien, ça dénote un état du cœur, et c'est le même mécanisme, si j'ose dire, qui va faire que l'homme va désirer une femme pour lui, pour avoir, pour posséder. Il transforme un objet. L'adultère spirituel conduit à l'adultère, à la fornication tout court. L'actualité confirme la nécessité d'une mise en garde et d'une vigilance dans notre marche chrétienne. De semaine en semaine, nous voyons depuis ces événements qu'il y a eu au début de l'année, là, une espèce d'unité. Les hommes veulent faire. Alors, ça a été les nations, et puis on voit se dessiner en ce moment autour des religions. L'État, nos gouvernants, pourtant anti-Dieu, on peut le dire, je ne fais pas de politique, mais c'est factuel. Eh bien aujourd'hui, alors, dire où est le bon et le mauvais là-dedans, ils voient que ça se barre dans tous les sens. Alors, il faut attention, ils font appel aux religieux, de tout poil. De tout poil. Ils disent, parce qu'au moins, ça mettrait un peu de morale. C'est ça, leur motivation. Si une bonne morale pouvait remplacer, parce que le plan Vigipirate, ça coûte cher quand même, hein. Puis maintenir l'ordre dans les banlieues, ça, c'est du budget. Bon, donc, si dans le fond, les religions, je veux parler de la chose sérieusement. Les religions, si on a encore un impact, après avoir bien sabré, je dis quand même, on pourrait peut-être leur demander. Alors, la seule petite question, c'est qu'on rassemble tout le monde, quoi. Alors, j'écoute, je passe pas beaucoup de temps à écouter l'actualité, mais j'ai appris cette semaine, par exemple, que suite à ce qui s'est passé au Mali, un attentat terroriste contre des Français au Mali, puisqu'ils sont engagés là-bas, eh bien, il y a deux religieux, un prêtre catholique et un musulman, sociologue, qui s'occupait de problèmes dans les banlieues, qui sont réunis et qui appellent un jeûne interreligieux. Extraordinaire. Un jeûne interreligieux et qui appelle à prier, on ne sait pas qui, un jeûne interreligieux contre la violence. Vous voyez, ça devient compliqué. Vous allez me dire, c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal, il faut quand même discerner, quoi. Rapidement, un bouddhiste se sont joints à eux. Et puis, journaliste qui a interrogé, mais ceux qui ne sont pas croyants, oui, il n'y a pas de problème, ils peuvent se joindre aussi. Ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont invoquer qui? Je m'arrête là, je ne suis pas là, je n'ai pas de puissance contre la vérité. Mais je mets en garde, parce que je sais que dans nos milieux, nous pouvons être tentés. Alors je dis simplement, Esdras a eu le même problème, le problème n'est pas nouveau. Les peuples idolâtres du coin ont dit, mais venez, on va construire avec vous, c'est la première stratégie. C'est l'homme qui se confie en l'homme. C'est le système babylonien, c'est ça la chair. Les hommes s'unissent pour la paix et opposer leurs bonnes œuvres et leurs bonnes volontés affiché pour s'opposer aux forces du mal dans un combat spirituel soutenu par le jaune. Ce n'est pas moi, je cite l'article de presse qui présente cette opération. Jeûne, combat spirituel. Mais ça parle, ça, dans nos milieux. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que ces hommes parlent du combat spirituel contre les forces du mal et les démons, mais sans jamais citer et manifester le rôle, la place de celui qui a été fait Seigneur et Maître, qui, lui seul, a pu terrasser les autorités, les dominations, Jésus-Christ à la croix de Golgotha. le seul qui a été fait, par lequel l'ennemi de nos âmes a été vaincu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là dans la confusion, dans la Babylone. Nous sommes là, c'est très concret. Je ne vous parle pas de choses à venir en vous faisant... Je dis pour notre marche aujourd'hui. Pour notre marche aujourd'hui. Et je m'arrêterai là sur « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Je crois que j'ai donné suffisamment d'exemples. « Béni soit l'homme maintenant qui se confie en l'Éternel. » Ceux qui, au milieu de tout ça, maintiennent leur confiance en Dieu. Ils sont comme un arbre planté près des courants d'eau. Il est donc question d'un courant d'eau. Un courant d'eau, il vient parce qu'il y a une source. Cet arbre-là a des racines qui puisent en profondeur. Il s'agit d'une vie intérieure qui est alimentée par une eau disponible en abondance et en permanence. C'est le fleuve vivifiant qui coule du trône de la grâce. Et ce trône de la grâce, il coule en abondance. Depuis que le voile a été déchiré, depuis que Christ est mort, depuis que la réconciliation est faite, c'est lui qui nous a annoncé déjà dans Ésaïe, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, l'eau de la parole qui ne retourne pas à Dieu sans effet. Jean-Luc l'a dit en priant pour moi tout à l'heure. C'est l'eau de la parole qui nous dit, tu es une créature merveilleuse. C'est l'eau de la parole qui console. C'est l'eau de la parole qui dit, ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom. C'est l'eau de la parole qui dit, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige parce que j'ai envoyé mon fils qui est mort pour tes péchés et tu es libre. C'est la parole qui dit, prends courage, tes péchés sont pardonnés et qui alors relève. Prends ton brancard aussi et redresse-toi. Celui qui te tenait courbé depuis 18 ans, moi je l'ai vaincu à la croix. Moi je l'ai vaincu à la croix. La puissance du mal, elle est vaincue à la croix. Par la mort de Jésus-Christ, pas par autre chose. Tout ce qui s'écartera de cela nous conduira à la mort. C'est la parole dont le nom est Jésus-Christ le Seigneur. Son nom est la parole de Dieu. C'est le fleuve dont les courants d'eau réjouissent la cité de Dieu. Psaume 46, verset 5. Et frères et sœurs, la cité de Dieu, c'est notre cité. Nous sommes citoyens des cieux. Citoyens de la Jérusalem céleste, et c'est elle, notre mère, et non Astarté. Et pour être au bénéfice de ce courant d'eau, de ce ruisseau de l'Éternel qui est plein d'eau, il faut être planté auprès de ce courant d'eau. Une graine a été semée dans nos cœurs un jour, et puis elle a poussé. Et finalement, l'homme qui se confie en l'Éternel, c'est l'homme qui est revenu à sa place. À la place qui est la sienne, créature aimée du Créateur. Ça y est, il est revenu à sa place. Il a quitté cette convoitise qui voulait, il voulait être Dieu. Vous serez comme des dieux. Non, il est revenu à sa place. Il est revenu à sa place. Aimé du Créateur. Restauré dans sa relation avec le Père Céleste. Confiant et non plus méfiant. Il est au bénéfice de la grâce, il est resitué à sa position. De versets qui me touchent là-dessus, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est moi qui rajoute, c'est pas compliqué. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Ça soulage. J'ai beaucoup de combats avec ça. Aimer la miséricorde. Mais je le sais, des fois, l'homme religieux qui encore se réveille, et juge, et machin, et ça va pas. Ouais. Aimer la miséricorde, comme il nous a fait miséricorde. Frères et sœurs, je n'ai pas atteint le but, mais je fais comme vous. Je cours, je demande, Seigneur, remplis-moi encore de ton fleuve qui fait miséricorde. La miséricorde n'est pas le compromis. La miséricorde, elle peut être dans les cœurs de ceux qui se savent rachetés, qui savent qu'ils sont au pied de la croix avec leurs frères. Ils ne sont pas au-dessus à regarder leurs frères, ils sont au pied de la croix avec leurs frères. Tous rachetés par le même sang. Alors là, la miséricorde, elle vient. Où est le sujet de se glorifier ? Nulle part. Nous croyons, nous sommes rachetés. Par la grâce, au moyen de la foi, sans les œuvres. sans les œuvres. Alors là, nous sommes là. Alors là, là, il y a des vraies libérations qui viennent. Au pied de la croix, avec mes frères. Le psaume 131, l'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni les regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Je suis bénaise. Je suis en paix. Alors, l'homme qui se confie à l'Éternel, il ne va plus craindre d'aller vers ses frères. J'entends parfois, moi, je veux recevoir de Dieu, je ne me confie pas dans les hommes. Souvent sur la base de ce verset, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cela paraît comme ça très spirituel, mais en fait, bien souvent, est ainsi manifesté un cœur abîmé, qui ne veut plus être blessé, ou trahi, ou rejeté, et qui du coup se tient à l'écart. Mais le problème n'est pas réglé. Oui, maudit soit l'homme, et je viens de l'expliquer ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas que je rejette mes frères. Non, non, moi je sois de Dieu, d'accord. La croix a deux branches, hein. Reçois de Dieu pour aller vers les frères, pour être avec les frères et pour recevoir des frères et sœurs. On ne peut pas échapper à ça. C'est pourquoi Jérémie, quand on regarde ce texte, je vais revenir au texte, après avoir dit « maudit soit l'homme qui se confie en l'homme », après avoir dit « béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel », c'est pour ça que j'ai lu le texte un petit peu plus loin, c'est intéressant. Il aborde, on dirait un peu autre chose. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, etc. Et puis alors, le verset 14, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au verset 14. Parce que, bon, le cœur est tortueux, mais Seigneur, je suis renouvelé, etc. Oui, mais veille sur ton cœur quand même. Parce que la partie non recyclée, elle peut des fois se remettre dans le cœur, là. Donc, veille quand même. Alors, au fur et à mesure de la marche chrétienne, normalement, c'est plus des actes franchement méchants ou des péchés grossiers, mais les pensées, elles peuvent toujours se promener. Et donc, nous devons veiller, puisqu'elles viennent du cœur, donc tout de suite, il faut les traiter. Et la maturité chrétienne, en fait, consiste à traiter de plus en plus tôt les pensées qui arrivent. Ce qui fait que ça libère, ce qui fait qu'on est disponible pour autre chose. Parce qu'il y a du boulot quand même. Voilà. Hein, donc, je crois que c'est bien de le voir comme ça, parce que sinon ça fait un peu tout blanc, tout noir, ben, je suis foutu, moi j'ai encore des... Ben non, hein, on le partageait avec le groupe d'hommes. Les pensées qui viennent, elles viennent. On n'est pas obligé de les laisser se développer. Et puis si on les a laissées se développer, ben, on crie au Seigneur, on parle, frère, on dit, attends, moi j'ai ce problème-là. Ça revient. Je ne parle pas que des pensées impures, je parle pensées de jalousie, de méchanceté, de jugement sur telle personne, etc. Voilà. Parce que ça nous souille. Alors il faut le traiter, quoi. Il faut le traiter, mais comment je vais aller dire à mon frère, attends, j'ai eu telle pensée, machin, de problème de jalousie, de machin, truc. Bon, vous voyez, je connais bien tous ces sujets-là. Eh bien oui, mais tant que c'est là, c'est là. Il n'y a pas de fatalité. Il faut que ce soit retapissé par les pensées de Dieu qui circulent dans la rivière, toutes celles que j'ai données, puis d'autres encore. Je t'aime, tu es aimé, tu sais que tu es aimé, et toutes ces pensées-là, c'est celles-là qui doivent remplacer. Quand elles vont remplacer les vieilles ordures qui traînent, ça va aller. Je discutais avec une sœur tout à l'heure, c'est pas en allant fouiller dans le sac d'ordures qu'on va s'en sortir. C'est en invoquant le Seigneur Jésus et la puissance de l'Esprit de vie et de résurrection que les ordures vont être balayées. Dans une rivière qui a été encombrée par des troncs d'arbres, etc., on enlève un tronc d'arbre, après, le courant va plus fort, il enlève les brindilles. Alors, c'est sûr que de temps en temps, il rabote les rives. Il rabote les rives. Et il y a des trucs qui étaient installés dans nos vies avec lesquels on était pas mal, quoi. Eh ben, si on ouvre un moment, ça fait chasse d'eau, quoi. Excusez-moi, ça fait... Ça chasse d'eau, ça, voilà, et ça nettoie. On a une position à prendre là-dessus, Donc l'homme qui se confie dans l'Éternel ne craint pas d'aller vers ses frères. Il reconnaît. Vous savez, c'est descriptif, ces passages-là. Moi, je veux vous dire, c'est un combat pour parler de ces choses-là, parce que faut dire que tout va bien, etc. Oui, tout va bien, mais c'est descriptif, c'est un peu clinique, si vous voulez. C'est le médecin qui fait... Vous savez, quand les chirurgiens, ils ouvrent, les médecins, ils ne voient pas que des trucs terribles. Hein. Donc là, c'est l'examen clinique. Il nous est déclaré, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Oh, c'est méchant, l'ancien... Ben non, c'est comme ça. C'est comme ça, depuis que ça a été souillé. Mais il y a la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais à vivre dans le déni, on n'avance pas. Voilà. Alors, le dernier verset. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Mon cœur, il est mauvais, Seigneur. Mais guéris-moi, là, il y a une parole forte. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Je recherche plus la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui vient, qui travaille. Je vous assure, ça ne se fait pas en deux jours. Et alors le vase peut être rempli. Mais pour remplir un vase, on le met sous le robinet. Ce n'est pas le vase qui se met au-dessus de la source. Sinon, il ne va jamais se remplir. Pour remplir le vase, on le met sous le robinet. D'accord ? L'invitation est claire dans ce verset 14. Toi, Éternel, qui sondes les cœurs, sonde mon cœur. Viens guérir ce qui doit l'être, que je puisse me confier pleinement à ton amour et ne plus craindre de m'approcher de mes frères. Parce que je le sente ou pas, je me sais aimé du Père. Alors, je peux m'approcher de mes frères et je peux me rendre vulnérable parce que je recevrai des blessures de mes frères, parce qu'ils sont comme moi, ils ne sont pas encore complètement guéris. Donc je vais recevoir des blessures de mes frères. Mais ce n'est pas une raison pour se sauver. Je me rebrancherai. Seigneur, tu m'aimes, je sais que tu aimes mon frère comme tu m'aimes. Et que lui aussi tu vas le guérir. Je conclue. L'homme qui se confie en l'homme, en la chair, en lui-même ou en l'autre, hein, se confie en l'homme, on pense se confier à d'autres, etc., ça ne va pas. Et c'est vrai que c'est mauvais, on peut se mettre aussi sous une dépendance. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je sais, ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie. Mais c'est aussi se confier en soi. Hein. Ça y est, je sais maintenant, moi. Je suis quand même intelligent. D'accord. Donc l'homme se confiant à la chair, c'est chercher à posséder, à stocker un amour, une reconnaissance. Cela mène à la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Cela mène à la mort pour celui qui pratique ça et pour ceux d'ailleurs en qui il se confie s'il se laisse séduire. Car aucun homme ne peut répondre aux besoins d'amour d'un autre être humain. Aucun. L'homme qui se confie en l'Éternel va vivre et être nourri. Il est planté. J'aurais voulu aussi développer un autre thème, mais bon, je ne veux pas le faire puisque j'ai une conclusion. Être planté, ça me faisait penser dans Romains 6, vous tous qui avez été baptisés, c'est dans sa mort. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est dans sa mort que vous avez été baptisé. Vous êtes désormais une même plante avec lui pour être planté. Ça veut dire aussi, pour que la graine, elle meure, qu'elle fasse des racines qui vont aller jusqu'au courant d'eau, il faut que la graine soit morte. Et je reviens, je voulais vous partager ça à Salomon, en lisant, je lisais dans un roi Salomon, ce jugement de Salomon, vous savez, avec les deux prostituées qui arrivent avec leurs enfants, qui sont, il y en a un qui est vivant, l'autre qui est mort, il y en a une qui a fait le changement de bébé, et elles viennent demander justice. Et alors, Salomon va avoir cette inspiration. On dit, ah, c'est cruel, machin. Vous savez, moi j'étais petit, on m'apprenait ça, le jugement de Salomon. Je voyais le bébé tenu comme ça avec le sabre. C'est terrible. Pourquoi il fait ça? Ça nous parle. celui qui aime vraiment, il est prêt à perdre pour que l'autre ait la vie. Il est prêt à perdre. Cette femme, et là on voit le véritable amour, c'est extraordinaire, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Elle est prête à perdre l'enfant, à le donner à l'autre, pour que l'enfant vive. 2 Corinthiens 4 nous dit, la mort de Jésus doit agir en nous pour que sa vie agisse en nous. La mort de Jésus doit agir en nous pour que sa vie agisse en nous. La mort de Jésus doit agir en nous pour que la vie de Jésus agisse en vous. C'est au fur et à mesure que je meurs que je peux être porteur de vie. Je meurs à moi-même, que je suis planté. Je suis planté près du courant d'eau. Je ne gambade pas où je veux dans ma vie, je suis planté près du courant d'eau. Sinon, les radicelles, elles vont être coupées. La relation avec le Seigneur de nous parler, Yves, c'est radicelles, c'est toujours les radicelles. On se demande comment l'arbre va chercher l'eau, comment il sait qu'il y a de l'eau là. Mais il y va. Et c'est toujours les plus radicelles qui captent le plus, les dernières qui ont poussé et qui amènent la vie. Si je passe mon temps sans arrêt à m'agiter dans tous les sens, je vais couper ces radicelles de cette intimité avec Dieu. L'homme qui se confie en l'Éternel va vivre, être nourri, renouvelé. Il est à la bonne place et n'a pas besoin de s'agiter. Il est comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Il a choisi la meilleure place. C'est Marie au pied de Jésus. Il est planté près de la rivière de la parole de Dieu qui apporte la vie véritable. Et pour conclure, je vais lire l'Apocalypse 22, versets 1 à 5. Ces passages merveilleux pour que nos regards se dirigent dans la bonne direction. Apocalypse 22, verset 25, verset 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est notre espérance, dès aujourd'hui. Je crois que dès aujourd'hui, nous avons les arts, les prémices de ces choses-là, si nous le voulons, si nous acceptons. Dire « Seigneur, sonde mon cœur et guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. » Amen. Nous prions un instant. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour cette eau vive, Seigneur, qui est à notre disposition. Je te prie ce matin que dans nos cœurs, ces paroles résonnent de nouveau, Seigneur. Que là où il y a eu des paroles de condamnation qui ont abîmé les vies, Seigneur, tu viennes mettre tes paroles de l'eau vive, Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Oui, tu as fait cela, mais j'ai payé pour toi et je t'aime. Je suis le vivant, je suis le ressuscité du troisième jour. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il vous précède en Galilée. Il est monté à la droite du Père, où il intercède pour nous. Père éternel, je te loue et je te bénis et je te prie que ce matin encore, parmi ceux, Seigneur, qui sont venus, ceux qui sont tes enfants, ceux qui ont goûté à cette intimité, ceux qui cherchent, Seigneur, parce que tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité et qu'ils te cherchent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais qu'ils se sont pris des mauvaises routes, Seigneur. Viens toucher par une parole, je t'en supplie, une seule parole de ta part, Seigneur, une seule parole de ta part. Et mon fils et mon frère sera sauvé. Une seule parole de ta part, Seigneur. Ô Éternel, parle encore ce matin. Éternel, sonde mon cœur, sonde nos cœurs. Guéris-moi et je serai guéri. Amen.